Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusé tous les jours, de 10h à 11h, quoi qu'il arrive, du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés par Midia Portis Guérin cette semaine, avec Jean-Richard Dufour à la technique, et préparés comme toujours par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Marine Boistet et Adèle Van Rett. Adèle qui recevra la philosophe Martine de Godemar tout à l'heure à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour vous parler de la voix des personnages. Suite et fin ce vendredi d'une semaine sur le bac philo dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine en partenariat avec Philosophie Magazine et son guide de secours, son hors-série sur l'épreuve du bac philo, dont la difficulté tient autant à l'idée qu'on s'en fait qu'aux exigences qui lui sont propres. Après avoir parlé du rêve, de l'action politique, du désir et de la joie, c'est de la mort pour finir qu'il sera question cette semaine en compagnie de Pierre Dulot, qui enseigne au lycée international de Strasbourg et qui se pose tout simplement la question redoutable de savoir s'il est possible de penser la mort. Peut-on penser la mort? C'est la question du jour, c'est aussi l'ultime question de cette seconde semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au baccalauréat. Une semaine au cours de laquelle 5 professeurs sont venus, certains devant leurs élèves d'ailleurs, plancher, se sont mis dans la situation du candidat bachelier. Aujourd'hui c'est Pierre Dulot qui est notre invité, Pierre Dulot qui enseigne au lycée international de Strasbourg et qui nous a donc proposé de traiter ce sujet qui rappelle d'ailleurs au passage une anecdote que m'avait raconté Charles Pépin un jour, arrivant devant ses élèves et l'un de ses élèves lui demandant « Mais monsieur, est-ce que cette année il y aura la mort au programme ?» Alors voilà, la mort est au programme de cette émission. Pierre Dulot, peut-on penser la mort? Vous êtes élève, vous êtes bachelier pour 50 minutes, vous avez ce sujet sous les yeux, comment vous faites?
Je suis interloqué, je pense. Les questions philosophiques sont toujours sidérantes, si on les prend au sérieux, enfin si on fait l'effort de les prendre au sérieux, et avec la mort, cet effet de sidération est sans doute encore renforcé, intensifié. C'est une question horriblement difficile, qui est quelque chose de paralysant certainement, il faut surmonter ça. Sa peur, hein, ça fait aussi partie de l'épreuve de la dissertation de philosophie. Et là, je crois que c'est l'occasion de parler de peur, puisqu'il s'agit de la mort, bien sûr. Être attentif, donc, à l'énoncé de la question. Peut-on penser la mort? Je pense qu'il y a un écueil à éviter, si on est candidat au baccalauréat, c'est d'oublier, d'essayer de déterminer le concept de pensée. C'est-à-dire que le réflexe, évidemment, quand on voit ce sujet, c'est de se jeter sur le concept de mort, d'essayer de multiplier les définitions, les paradoxes au sujet de la mort, de donner des exemples, etc.
Et d'oublier que le problème est dans, est dans l'addition de ces deux termes.
D'oublier que le problème vise autant, peut-être prioritairement, la pensée. Peut-on penser la mort? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se mettre au clair sur ce que veut dire penser, qu'appelle-t-on penser? Et donc, je crois que c'est là que réside la principale difficulté du sujet, donc c'est peut-être là-dessus que je commencerai par faire porter mes efforts.
En d'autres termes, l'hypothèse selon laquelle la mort met la pensée en échec, à la fois dicte la nécessité de penser, serait-on philosophe? Ferait-on de la philosophie si nous n'étions confrontés à l'imminence de la mort sur tous nos actes? Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, est-ce que la pensée n'est pas caduque et d'emblée vaine au regard du fait que tout cela s'achèvera?
C'est ça, caduque, vaine. Je rebondis sur votre remarque parce que c'est vrai qu'il y a presque aussi quelque chose d'indécent. Parfois, quand on entend des gens pérorer sur la mort, j'espère qu'on va éviter ça aujourd'hui ensemble. Mais c'est vrai que la mort est une question si intense qu'il y a parfois... Enfin, on se dit que c'est... Il y a de la témérité à vouloir en parler, et peut-être même de l'indécence, peut-être même un problème moral. Donc il faut avancer, faire profil bas, je pense, quand on essaye de traiter cette question.
Mais pour faire profil bas, il faut aussi fabriquer une problématique en examinant les termes du sujet.
Être très prudent.
Puisque vous endossez la responsabilité du choix du sujet, et du sujet que vous nous avez proposé, hein, Pierre
Dulot,
comment fait-on?
Je pense que ce qui est important... C'est dans une introduction, le point de départ, c'est d'essayer de mettre en scène la question pour lui donner du relief. C'est ce que j'invite toujours mes élèves à essayer de faire, en tout cas dans l'intro, c'est d'essayer de donner un peu de chair à la question, donc de la mettre en situation. Et je dirais, dans quelles circonstances est-ce qu'on rencontre la mort? Dans des circonstances où la pensée au sens d'un exercice spéculatif réglé, d'une entreprise de connaissances déterminée, est entièrement et complètement absente. On rencontre la mort dans la supplique de l'agonisant, dans le silence qui entoure le cadavre lui-même, dans la prière de celui qui veut sauver son âme, mais jamais on rencontre quelque chose comme de la pensée. Donc je soulignerai ça dans l'introduction, le fait que l'expérience que nous effectuons de la mort est une expérience qui paraît privée complètement la pensée de ses moyens et la rejeter comme quelque chose de tout à fait inessentiel pour ne laisser place qu'à la supplique ou au silence.
Ici, le verbe pouvoir, qu'on a pour l'instant un petit peu négligé parmi les termes du sujet, ce verbe pouvoir, vous l'entendez au sens de capacité, non pas capacité juridique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'entendre ici « est-on en droit de penser la mort ?» mais « sommes-nous en capacité de le faire étant donné que nous sommes vivants et que la mort ne nous concerne pas ?»
C'est ça. Est-ce que c'est envisageable, d'un point de vue théorique, de produire un discours qui ne serait pas contradictoire, qui aurait une cohérence et qui rendrait compte de cette réalité qui est désignée par le vocable de mort ? C'est-à-dire, pouvoir ici, désigne une possibilité théorique. Est-ce que la pensée a légitimité de se saisir d'un objet de ce genre, si c'est bien un objet ? Et c'est d'ailleurs ça le problème.
Alors, est-ce qu'à partir de là, si l'on définit la pensée comme ce qui se donne des objets de pensée, et la mort comme ce qui précisément échappe à l'objectivation ou à la réduction en objet, pas là la problématique, justement ?
Exactement, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en parlant de mise en scène ou de mise en situation. Il semble que de toutes les manières que l'on prenne cette énigme, la mort n'apparaisse jamais comme un objet dont la pensée peut se saisir et qu'elle pourrait analyser, décomposer à loisir, maîtriser. C'est-à-dire derrière l'idée que la pensée a une puissance d'objectivation de la réalité, il y a l'idée d'un désir de maîtrise, d'un désir de contrôle. Et il me semble que la mort nous fait éprouver la limite de cette définition de la pensée. C'est-à-dire, la pensée peut-elle se limiter à la pensée objectivante qui contrôle le phénomène qu'elle prend en considération? Peut-elle se limiter à cela, ou faut-il au contraire fournir une autre définition de la pensée qui nous permettrait à ce moment-là de rendre compte adéquatement du phénomène de la mort?
Pierre Dulot, je présume ou je pressens, mais peut-être que je me trompe complètement.
Je vous en prie, allez-y.
Que vous pourriez faire à cette problématique-là, ou au problème que vous posez là, deux objections qui peut-être viendront plus tard. Dites-moi si j'ai raison, est-ce qu'on peut les avoir en tête? La première, c'est que la pensée analyse, décompose, saisit des objets, mais précisément ce qu'elle saisit, ce qu'elle analyse, ce qu'elle décompose, c'est de la mort, dans la mesure où ce qu'on peut disséquer, ce qu'on peut analyser, ce qu'on peut expliquer, c'est ce qui ne bouge plus et qui, à cet égard, se prête à ciel ouvert, ou à tombeau ouvert, à l'analyse. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième chose, c'est l'hypothèse de la mort des autres, qui ferait de la mort un objet de pensée pour nous, justement.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, vous parlez du paradoxe de l'analyse, qui est un mode de connaissance qui, par définition, décompose des objets qu'il saisit. C'est le paradoxe de la dissection, en quelque sorte.
Or, on ne dissecte des cadavres, à ma connaissance.
C'est ça. Ou alors, si on finit par tuer ce que l'on veut comprendre et qui est vivant, en le disséquant, en l'analysant.
À la façon dont on veut expliquer une blague et on la perd. Ça n'est plus drôle quand on explique un
fait d'esprit. Il y a un paradoxe lié à la compréhension analytique du réel, qui est qu'il tue, en fait, effectivement. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. La compréhension analytique tue les objets qu'elle cherche à saisir. Donc on manquerait l'essence de la mort, sa vie en tant que concept, si on cherchait peut-être à l'analyser. Enfin, le paradoxe se démultiplie. Enfin, il y a quelque chose d'un peu vertigineux là-dedans. D'autre part, ce que vous évoquez, c'est un autre problème, me semble-t-il. C'est le problème de l'expérience directe ou expérience indirecte de la mort. Vous rappelez en fait l'argument de type épicurien qui consiste à dire avec la mort, c'est toujours un rendez-vous manqué. En tout cas, en ce qui concerne ma mort propre. C'est-à-dire, je ne peux pas en faire l'expérience, puisque par définition, elle me désincarne.
C'est le paradoxe d'un rendez-vous manqué auquel on est toujours ponctuel, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, on est toujours à l'heure, mais on rate toujours...
On est à l'heure, mais on n'est plus là.
On est à l'heure, mais on n'est plus là. Et ce que vous disiez, c'est qu'on pourrait objecter à cette idée qu'on fait bien une expérience indirecte de la mort par l'expérience du deuil. Oui, vous avez tout à fait raison.
Alors, allons-y. Donc, on a la problématique ici.
Est-ce toujours s'accepter de ce que l'on pense, et la mort étant ce qui ne fait aucune exception, je résume, je synthétise, la mort étant ce qui ne fait aucune exception, est-elle pensable? Si penser, c'est s'accepter de ce que l'on pense et donc objectiver un phénomène, peut-on penser la mort qui, par définition, ne fait aucune exception et nous saisit bien plus que nous ne la saisissons? Donc la problématique, ce serait ça.
La problématique, elle est limpide. Elle saute aux yeux, c'est le fil directeur, on le dit tous les jours, c'est le fil rouge de la dissertation, on doit l'avoir en tête tout le temps. Bon, est-ce que vous annoncez le plan dans l'introduction ou est-ce que
Oui, je le ferai, c'est aussi un exercice rhétorique. La dissertation, il ne faut pas négliger cet aspect, c'est un gage de cohérence. C'est-à-dire que l'annonce du plan, c'est une manière de dire, j'annonce que je vais faire quelque chose, et si je le fais, et ben ça authentifiera l'intelligence de ma prévision. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais dit ce que j'allais faire et je l'aurais fait. De la même façon qu'en conclusion, ce n'est pas absurde de faire une synthèse pour se féliciter en quelque sorte du chemin qu'on a parcouru et du fait qu'on a tenu qu'on a honoré les exigences qu'on avait reconnues au départ.
Quelles sont les questions du plan ici ?
Alors, moi, je commencerai
rapidement par la thèse de l'introduction.
Je commencerai par la thèse la plus simple, qui consisterait à dire que la mort est impensable pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la pensée ne peut jamais s'en saisir. En transition, j'essaierai de réfuter les arguments qui permettent d'étayer cette thèse, et j'avancerai tout simplement la thèse inverse, qui consiste à dire que la mort, on peut la déterminer conceptuellement, on peut dire ce qu'elle est. Il n'y a pas de problème. Ce serait ma deuxième partie à ce moment-là, c'est-à-dire la détermination conceptuelle de la mort. Enfin, j'essaierai de montrer dans un troisième temps qu'il faut transformer la définition de la pensée radicalement, la comprendre d'une toute autre manière pour pouvoir penser authentiquement la mort. Et qu'à ce moment-là, c'est possible, mais que la pensée n'est plus la pensée qui est objective, mais la pensée qui intériorise et qui médite.
Mourir en rougissant, suivant la guerre qu'il fait, du fait des Allemands à cause des Anglais. Mourir baiser intègre entre les seins d'une grosse, contre les os d'une maigre dans un cul de basse fosse. Mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se racraper.
Pierre Dulot est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine de bac philo, une série de dissertations. La dissertation du jour, c'est « Peut-on penser la mort ?»
D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'ose plus trop rire, mourir de faire le pitre pour dérider le désert, mourir face au cancer par arrêt de l'arbitre. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, vieillir.
Pierre Dulot, un point avant d'entrer dans la première partie. Que vous inspire cette chanson de Jacques Brel ? Il veut bien mourir, mais il ne veut pas vieillir. On pourrait comprendre ça autrement, c'est-à-dire il veut bien de ce moment où il n'est pas. C'est-à-dire le moment de la mort. Après tout, il n'est plus concerné par le moment de la mort. En revanche, vieillir, c'est-à-dire assumer la présence de la mort dans la vie, ça, c'est une autre histoire.
Je crois qu'il veut l'impossible, puisque la mort, je pense, mais là, j'anticiperai sur la deuxième partie, et de toute façon, si on cesse de la concevoir unilatéralement comme ce qui exclut la vie, immanente à l'existence. Et c'est justement le vieillissement, le moindre processus de maturation, je ne vais même pas parler de la grande vieillesse, mais le processus de la croissance, n'importe quel
processus. Et déjà un vieillissement.
C'est déjà une mort. Pour devenir adolescent, il faut mourir à l'enfant. Pour devenir adulte, il faut mourir à l'adolescent, etc. Ce ne sont pas que des jeux de mots, des métaphores.
On retrouve ça en biologie, hein, c'est le suicide cellulaire.
Absolument, l'apoptose qui nous indique, je crois, un phénomène authentifié scientifiquement, pour le coup grâce à l'analyse, mais qui nous indique une vérité spéculative d'une très grande profondeur, qui est que là, comme le disait Spinoza, toute détermination est une négation. C'est-à-dire que là, le vivant n'acquiert sa forme qu'en consentant d'une certaine manière à la mort, c'est-à-dire qu'en consentant à s'auto-limiter. Et si la mort, c'est la limite en nous, alors elle est présente du seul moment qu'on apparaît et qu'on advient à l'être, à la conscience, à la présence, à la vie.
On y viendra, ça c'est la deuxième partie.
Oui.
Revenons en amont de cette démonstration. L'objet de ces chansons n'est pas seulement décoratif naturellement, il est aussi de dire que Jacques Brel comme d'autres, hein, on entendra traîner tout à l'heure, Jacques Brel comme d'autres sont les interprètes, comme les philosophes, de questions fondamentales et qu'au fond, penser que la philosophie est un exercice désincarné, qu'il faudrait à grands coups de trucs ou d'artifices rattacher au sol du réel, est une illusion. La philosophie est née même du fait de vivre. La philosophie est en elle-même une exigence vitale et par conséquent, elle endosse ces questions qui sont traduites en littérature comme en musique par les plus grands interprètes. Venons-en donc à la première partie. La mort est impensable, Pierre Dulot.
Oui, la mort est impensable on a des raisons de le croire et de le considérer, de considérer la chose ainsi pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que ma mort propre, bon, c'est un argument de type épicurien, si vous voulez, ma mort propre, je n'en fais pas l'expérience. C'est la question du rendez-vous manqué qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire c'est amusant à considérer, mais quand elle est là, je ne suis plus là. Et tant que je suis là, elle n'est pas là. En fait, on ne se rencontre jamais. Donc comment penser ce dont on ne fait jamais l'expérience en propre? Comment considérer ce qui, d'aucune manière, ne semble nous apparaître?
C'est d'épicure premier... à Charles Trenet, hein, le soleil a rendez-vous avec la lune.
Voilà, exactement, d'une certaine façon. Alors je dis c'est un argument de type épicurien, par souci de précision, parce que pour Épicure, il faut penser à la mort. Ça c'est un autre problème un peu plus technique qui concerne l'histoire des idées, mais je le précise quand même, parce qu'on ne sait jamais pour un candidat.
Parce que le lieu commun sur Épicure, c'est que dans la lettre à Ménécée, il a dit on ne peut pas penser à la mort.
Mais c'est pas le cas, en fait il nous invite à la pensée, et donc c'est un argument de type épicurien, c'est pas un argument épicurien au sens strict. En tout cas, effectivement, on peut être amené à considérer que la mort, on ne la rencontre pas, donc on ne peut rien dire de ce qu'on ne rencontre jamais. Ça paraît évident. Alors ici, l'objection, c'est de dire oui, mais on la rencontre quand même. Et c'est l'expérience du deuil, point qu'on évoquait aussi précédemment. Là, ce que je répondrai avec Saint-Exupéry.
On est toujours ici dans la première partie.
On est toujours ici dans la première partie, dans un deuxième point. Ce que je répondrai dans ce cas-là, à quelqu'un qui dirait, oui, mais on peut penser la mort, puisque les gens meurent autour de nous, et nous faisons l'expérience du deuil. Ce que je répondrai à ce moment-là, c'est que une banalité, mais aussi quelque chose d'important, c'est qu'aucune mort n'en vaut une autre. C'est-à-dire que l'expérience du deuil est toujours, par définition, singulière, parce qu'une personne, c'est un infini de qualité, on pourrait dire ça rapidement ainsi, c'est un ineffable, on n'a jamais fini de dire tout ce qu'on pourrait dire d'une personne. Et donc, quand elle disparaît, c'est un infini qui disparaît, il faut dire la chose ainsi, je pense. Donc, cette expérience de la perte de la personne qu'on aime, de la personne qui est proche, elle est insubstituable, elle est incomparable, elle a donc quelque chose d'absolu. Et ce que l'on ne rencontre qu'une fois, tout ça pour en venir là, on ne peut pas le penser, on ne peut que le vivre. Pour penser, ça veut dire au minimum universaliser l'expérience. C'est ça que je dirais dans la dissertation.
Ou au moins s'abstraire de l'objet que l'on pense, s'en éloigner un peu. On ne peut pas être et savoir.
Il faut avoir, oui, c'est ce que dit magnifiquement Angelus Silesius. Ce que je sais, je ne le suis pas. Ce que je suis, je ne le sais pas. C'est-à-dire que pour connaître une chose, encore faut-il en être distinct. Bon, mais ça, c'est presque un autre problème. Là, ce que je voulais dire, c'est que la pensée a une naturelle vocation à l'universalisation, à la généralisation, si l'on veut. Et la mort d'autrui, la mort du proche, c'est ce qu'on ne peut pas généraliser.
C'est quand même un paradoxe, puisque la mort est notre lot commun. C'est peut-être de tous les points communs, celui que nous avons le plus en commun. Nous avons plus en commun d'être mortels que d'avoir les mêmes organes, puisqu'après tout, certains pourraient avoir d'autres organes. La mort est ce que nous avons de plus commun, et pourtant, d'une part, la mort est toujours jeune, chacun est le premier à mourir, et d'autre part, la mort de l'autre, en tant qu'autre, est insubstituable.
C'est ça, exactement. Encore un paradoxe, elle frappe tout le monde, mais personnellement. Et ce que l'on ne peut pas généraliser, ce qui résiste par nature à toute forme d'universalisation, on a des bonnes raisons de croire qu'on ne peut pas le penser. Parce que la pensée a naturellement, je le répète, vocation à universaliser l'expérience.
Est-ce que c'est ce qui permet d'expliquer le fait qu'on sache qu'on va mourir sans y croire?
Ah, alors là, vous anticipez sur la suite de la dissertation. C'est peut-être ça, vous avez raison.
Alors, on en parlera
grave,
plus tard.
Grave problème.
C'est la phrase de Jean Kelevitch, je sais que je vais mourir, mais j'y crois pas.
C'est ça, exactement.
Bon, ça, on en parlera plus tard.
Si vous voulez.
Allons-y, continuons. Donc, on en était à l'expérience du deuil.
Oui, alors l'expérience du deuil, moi je penserais ici à Saint-Augustin, ça peut être une très bonne référence, je crois, dans la dissertation qui, dans les Confessions au livre 4, c'est un texte bouleversant où saint Augustin raconte qu'un de ses amis est mort, et c'est dans ce passage qu'il énonce la fameuse formule « J'étais devenu pour moi-même une question pour moi-même, tout autour de moi était devenu la mort », etc. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée que quand mon ami meurt, mon amour meurt, mon proche meurt, tout meurt, et y compris moi-même. Il n'y a rien à penser. On est anéanti par ce genre d'expérience. On est réduit à rien. Avec la mort du proche. Que reste-t-il à penser? Rien.
On est anéanti par le néant.
Oui, on est gagné par d'abord le désespoir, ensuite on supplie, et puis ensuite on s'éteint. Je pense que c'est ça qui se produit. Considéré sous cet angle, peut-on penser la mort? Trois fois non, mille fois non, c'est l'impensable par excellence. C'est ce qui nous abolit. Donc, c'est ce qui abolit les gens qu'on aime, c'est ce qui nous abolit. rien à dire.
Montaigne peut ici faire aussi l'objet d'une référence. Le chapitre 28 des essais, le tombeau de la Boétie.
Oui.
Depuis qu'il est mort, je ne fais que me traîner languissant.
Bien sûr,
etc.
Bien sûr, c'est
le désespoir de l'ami.
Thème universel qui traverse les siècles. Oui, bien sûr, vous avez raison. Alors, dans le fil de cette argumentation, je continuerai en disant, en cherchant secours du côté de la science, toujours dans cette première partie. Et on pourrait se demander à ce moment-là si les sciences expérimentales ont des choses à nous apprendre au sujet de la mort. Si on n'en fait pas l'expérience directe, je rate toujours ma mort, bien qu'elle m'attrape toujours, ni l'expérience indirecte, l'expérience du deuil est incommunicable parce que les personnes sont insubstituables entre elles, peut-être qu'on peut attendre un secours de l'homme de science, peut-être que lui peut nous dire quelque chose. Enfin, rhétoriquement, je poserai la question, si vous voulez, dans la dissertation. Troisième temps d'une première partie. Là encore, on rencontre un obstacle qui est évident, et c'est celui que vous annonciez par provision là, tout à l'heure, en parlant du problème de l'analyse. C'est que la science moderne, et particulièrement contemporaine, est principalement une science analytique, c'est-à-dire qui détruit les objets qu'elle comprend, et qui, de ce fait même, ne nous permet pas de les comprendre. La science explique, elle décrit des phénomènes, des processus, mais se trouve incapable de les saisir en leur raison d'être. Et cette compréhension nous échappe toujours quand on lit des manuels, quand on lit des descriptions scientifiques qui concernent, je ne sais pas, la nécrose, la corruption des chairs, la désagrégation atomique qui frappe le vivant.
Oui, toutes choses face auxquelles on a envie de dire ça nous fait une belle jambe.
Exactement, ça nous fait une belle jambe. Je pense à Husserl, qui au début de la crise des sciences européennes et de la phénoménologie transcendantale, Husserl qui dit, dans la détresse de nos vies, la science n'a rien à nous dire. Dans la détresse, je répète, dans la détresse de nos vies, la science n'a rien à nous dire. Elle peut empiler les certitudes. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Effectivement, là, on peut repenser à saint Augustin. Son ami est mort. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire de savoir que l'apoptose a travaillé son corps dès sa naissance ? Rien du tout. Donc, dans la détresse de nos existences incarnées, en quête toujours de sens, il semble que la science ne nous soit pas d'un très très grand secours.
On pourrait se servir du modèle du suicide, la façon dont Durkheim étudie le suicide, en expliquant le taux de suicide par race, comme il dit, par taille, par
oui.
religion, par région, etc.
Oui.
On ne trouve pas une ligne pour dire pourquoi un homme s'est tué.
Oui, vous savez, ça me fait penser ce que vous dites à ce que dit Jean Kelevitch, justement, dans son très beau livre sur la mort. La science fait du scandale une loi. Donc elle intègre en fait le scandale irréductible de la perte de l'ami, de l'amour, elle l'intègre dans un tableau statistique de probabilité et c'est insupportable. Alors c'est très intéressant si on est sociologue, mais ça a quelque chose d'insupportable pour l'honnête homme qui s'inquiète du sens des choses.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poètes maudits.
La chante et dès lors miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour, la mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle, et si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort.
Peut-on penser la mort ? C'est le sujet du jour et Pierre Dulot est l'invité des Nouveaux Chemins aujourd'hui. Pierre Dulot enseigne au lycée international de Strasbourg.
La mienne n'aura pas comme dans le Larousse un squelette, un linceul dans la main
une faux.
Mes filles de 20 ans à chevelure rousse en voile de mariée, elle aura ce qu'il faut.
Pierre Dulot, parfois une chanson est plus éloquente qu'une première partie de dissertation, si bien construite soit-elle.
Ah, hein, bien sûr.
La meilleure réponse qu'on puisse poser, justement, poser une réponse serait intéressant. La meilleure réponse qu'on puisse poser à la question.
Je m'incline sans problème devant Léo Ferré.
Mais on va justement le faire taire et vous demander à vous, Pierre Dulot, écoutez, de conclure cette première partie. Car après tout, rappelons hein, quand même que l'objet de la première partie était « Peut-on penser la mort ?» On ne peut pas la penser. La mort est impensable. On n'en fait pas l'expérience, le deuil est insubstituable.
La science
peine à nous dire ce qu'elle est, ou plus exactement ce qu'elle nous en dit ne nous concerne pas. Ouais. L'apoptose ne concerne pas la mort d'un ami, on s'en fout. Donc, concluons.
La mort est impensable, mais rebondissons surtout. Rebondissons, c'est l'objet de la transition qui nous ferait passer d'une première à une seconde partie. La vocation de la transition, donc je le rappelle pour les auditeurs qui sont candidats au bac, c'est toujours de manifester, d'essayer de montrer les insuffisances de la première thèse qu'on a cherché à défendre. Il faut se souvenir du principe hegelien, le vrai s'avère en réfutant le faux. Donc, il faut, après avoir fait droit à ces arguments, il faut tâcher de les mettre en échec. Alors le premier argument de type épicurien, il est très limité en fin de compte. Il est facile à contrer.
Rappelons, hein, c'est je ne fais pas l'expérience.
Je n'en fais pas l'expérience, donc je ne peux pas penser. Si c'était vrai, je ne pourrais moi présentement penser que ce studio, en quelque sorte, votre présence et cette émission.
Vous ne pourriez penser que ce dont vous faites l'expérience à l'instant où vous
voilà,
la faites.
Voilà, exactement. Ce qui n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un océan que je ne peux pas penser ce qu'est un océan. Ce n'est pas parce que je ne pratique pas la navigation que je ne peux pas penser ce qu'est la navigation, etc. Bien heureusement, on ne pense pas seulement, ni même surtout d'ailleurs, ce dont on fait réellement l'expérience.
Oui, parfois on pense moins bien ce dont on fait l'expérience, car on croit que le fait d'en avoir fait l'expérience nous délivre une vérité à son sujet.
Absolument, et on devient...
Du genre, moi qui ai vécu ça, je peux vous dire que...
C'est ça, exactement. Il y a un fanatisme aussi de l'empirie. Et vous avez tout à fait raison. Et... Donc cet argument, si on le réduit, ça voudrait dire on peut penser que ce qu'on vit, quoi. Il ne tient pas, il faut le dire simplement, il ne tient pas la plupart du temps lorsque nous pensons. D'ailleurs, Platon l'indique d'une certaine à sa façon. Il ne veut pas dire seulement ça, mais quand il dit que les philosophes n'ont d'autre occupation que de mourir et d'être morts, il dit bien quelque chose de ce genre-là. On ne fait pas, heureusement, que penser la vie. Donc le premier argument, il ne peut pas tenir. On ne fait pas que penser la vie, on ne pense pas que ce dont on fait l'expérience. Le deuxième argument qui dit le...
Excusez-moi, est-ce que à cet argument-là, on ne peut pas ajouter le fait que non seulement une sorte d'argument du chaudron, enfin, en fait, non seulement on peut penser ce dont on ne fait pas l'expérience, mais aussi on peut faire l'expérience de la mort. Au sens où on peut la sentir en soi, comme dirait Ferré dans une autre chanson, hein, c'est les cheveux blancs sous la teinture.
Oui, sentir la négation qui travaille en nous, sentir le négatif qui travaille.
Pas l'apoptose qui est abstraite pour nous, on ne peut pas la sentir, mais en revanche on voit bien la ride qui se forme,
absolument,
qui se creuse, on sent bien l'érection plus difficile,
absolument,
le cheveu blanc, etc.
Vous avez tout à fait raison, et je vais essayer de détailler ce point dans la deuxième partie, tout à fait. Mais il faudra faire droit à cette idée, bien sûr. La mort, on la sent, parce qu'on sent le négatif. Le deuxième argument qui concernait le deuil, c'est-à-dire l'expérience, on peut dire l'expérience indirecte, celui-là non plus, il tient pas, pour une raison très simple, et c'est pour ça que je parlais de saint Augustin, c'est qu'on comprend ce que nous dit saint Augustin lorsqu'il nous parle de la mort de cet ami. Ça peut nous toucher. C'est-à-dire que cet incommunicable, eh bien le paradoxe, c'est qu'il arrive à nous le transmettre. Cette expérience purement singulière, du seul fait qu'elle est nommée comme singulière et reçue comme telle, elle est universalisée. Donc il se retourne comme un gant, l'argument de la douleur insubstituable, mais tu ne peux pas me comprendre.
Par le simple fait que ceux qui en parlent soient bouleversants.
Exactement, parce qu'ils nous touchent, ils nous communiquent leur souffrance, leur douleur, leur malheur, et ça authentifie une communauté, une humanité universelle, si l'on peut dire. Du seul fait que c'est nommé comme singulier, c'est universalisé. si je formalise un peu, si vous voulez, du seul fait que c'est nommé comme singulier, alors c'est universalisé. Donc on pense bien quelque chose lorsqu'on dit que la souffrance du deuil est incommunicable, insubstituable.
Il y a peut-être deux images, on pourrait se servir de ça. Enfin, je dis ça comme une hypothèse, peut-être que c'est des lectures utiles pour des candidats bacheliers. Il y a la mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, qui décrit de l'intérieur une mort, au fond. Oui. Ivan Ilitch sait que tous les hommes sont mortels, mais il n'avait pas du tout compris que ça le concernait lui aussi, jusqu'au moment où il s'en aperçoit. Et là, d'ailleurs, le mal qui le ronge n'est jamais nommé. On est tenté de penser que le mal qui le ronge, c'est précisément d'être vivant. Et qu'à cet égard, donc, il est condamné. Et la deuxième référence, eh bien, c'est encore et toujours Montaigne, hein, justement.
Oui.
C'est à la fois la mort de la Boétie, mais c'est aussi le fameux chapitre sur que philosopher, c'est apprendre à mourir.
Oui.
Et c'est cette façon que nous avons, Montaigne dit, hein, de mettre des squelettes au milieu de la table pour avoir la mort sous les yeux.
Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces grands auteurs nous parlent, nous disent quelque chose. Ils peuvent nous toucher, ils peuvent susciter, éveiller nos émotions. Et donc, fort heureusement, on n'est pas enfermé autarciquement en sa propre subjectivité lorsqu'on rencontre la mort. Non, on peut communiquer des choses. Il y a une transmission qui peut s'effectuer, qui est possible. Alors, si je reprends le fil des arguments, le troisième argument, c'était le problème, le scandale scientifique. Quoi. La science n'a rien à nous dire, nous dit Husserl, sauf qu'il nous dit ça dans un livre de philosophie où il va justement essayer de faire parler la science de ce qu'elle a profondément à dire. Donc, cet argument-là, il ne tient pas non plus, parce que c'est à la philosophie de dire ce qu'il en est du sens profond des choses. Enfin, si on a foi en la philosophie, en tout cas, c'est la spéculation métaphysique qui est capable de se servir des éléments qui sont apportés par les sciences dures ou les sciences expérimentales pour les dévoiler en leur sens, ou en tout cas essayer de les interpréter pour qu'ils aient un sens. Et si l'apoptose, les tableaux statistiques pris tels quels sont insignifiants, peut-être qu'ils le sont beaucoup moins quand Jean Kelevitch en parle, peut-être qu'ils le sont beaucoup moins quand Heidegger médite sur la mort, etc. etc. Donc, cette limite de l'explication analytique qui est le propre de la science moderne et contemporaine, il n'y a pas de quoi s'en alarmer, il n'y a pas de quoi s'en inquiéter. C'est à la philosophie, à la spéculation, à la méditation de se ressaisir de tous ces éléments pour les penser, justement.
Et là, nous sommes donc au terme de la deuxième partie, vous avez retourné comme trois gants les trois arguments qui étaient ceux de la première partie, qui pensaient la mort comme impensable.
C'est ça.
Mais vous n'avez pas tout dit dans cette deuxième partie. Il reste un travail
Cette deuxième partie.
Ça, c'est la première partie de la deuxième partie.
C'est la transition, c'est l'articulation. C'est donc le moment, le vrai s'avère en réfutant le faux. C'est le moment où on met en échec ce qui paraissait avoir pourtant beaucoup de sens, à savoir qu'on ne peut rien dire de la mort et qu'on ne peut pas la penser.
Alors, faut préciser juste un point quand même sur la façon dont vous mettez les choses en échec. Vous ne les mettez pas en échec, on le dit tous les jours là aussi, mais c'est important. La façon dont vous mettez les choses en échec ne consiste pas à opposer à un premier point de vue un autre point de vue,
non,
et à les laisser se battre en espérant que le plus fort l'emporte.
Il faut être vraiment hegelien. Je crois qu'il y a une vérité du discours hegelien. C'est la marche de la pensée. Il faut montrer la contradiction qui travaille de façon interne à l'argument. C'est-à-dire ce que lui-même ne pense pas. Il ne s'agit pas de juxtaposer ou de superposer des arguments. Il faut montrer pourquoi certains arguments s'effondrent d'eux-mêmes si on les pousse jusqu'au bout.
Alors, ça, c'est la version hegelienne. D'un point de vue nietzschéen, on pourrait dire faire campagne contre soi-même et donc penser contre ses propres idées.
Hein. Si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que la dissertation n'est pas une addition d'arguments. Elle ne peut pas être cela.
C'est un forage.
Oui, mais alors je ne dirais pas ça. Je dirais, si vous me permettez deux minutes, là, une parenthèse de pédagogie ou de méthode. Moi, la phrase que je cite toujours pour mes élèves, parce que je pense qu'elle est éclairante, elle est évidente, c'est la phrase de Platon, un beau discours doit être comme un corps. Un beau discours, souvenez-vous, dans le Phèdre, un beau discours doit être comme un corps, c'est-à-dire bien proportionné et solidement articulé. C'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire, c'est un impératif de proportion. C'est-à-dire, évidemment, là.
Avec rien de trop.
Rien de trop, exactement. L'impératif canonique, quoi. Rien de trop. Il faut. Donc, un impératif de proportion. Il va de soi que la partie centrale ne peut pas faire deux lignes et l'introduction 25 pages. Donc, impératif de mesure. Et surtout, impératif d'articulation. Comme un corps, c'est-à-dire solidement articulé. Le propre d'une articulation, c'est qu'elle doit être plus solide que les parties qu'elle articule. Enfin, je dis toujours ça à mes élèves. Et ça, c'est très important. Il ne faut jamais le négliger. C'est pour ça que les professeurs persécutent leurs élèves avec les transitions, soignez vos transitions. C'est pour cette raison-là. C'est parce que c'est un principe qui a une valeur, d'ailleurs, bien au-delà de l'exercice de la dissertation. C'est vrai pour une porte ce que je dis à mes élèves, si vous avez une porte blindée et des charnières en plastique, c'est comme si votre porte ne sert à rien. Eh ben, l'articulation doit toujours être plus solide que les parties qu'elle articule. Et c'est pour ça qu'il faut passer du temps à développer la transition dans la dissertation. C'est le moment nerveux. C'est le moment où les pensées s'emboîtent, s'enchaînent les unes avec les autres. Si ce moment-là est raté, ça ne marche jamais.
C'est le cartilage.
Voilà.
Et donc, comment fait-on ici ?
La transition, elle est déjà faite, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on a montré les contradictions qui travaillent les premiers arguments, ça rebondit de soi-même. C'est-à-dire qu'on peut penser la mort. La conclusion, elle est évidente, c'est qu'on peut penser la mort. Et donc là, j'engagerai vraiment le cœur de la deuxième partie et j'essaierai de déterminer conceptuellement la mort. Là, je proposerai trois concepts, parce que je pense qu'ils rendent compte adéquatement de tous les aspects du problème. Je développerai trois idées, si vous voulez. C'est que la mort, c'est la séparation. Deuxièmement, c'est la fin. Et troisièmement, c'est l'imminence. Alors la mort, c'est la séparation dans tous les sens que peut avoir ce terme. C'est la séparation matérielle, c'est-à-dire que c'est un processus de désagrégation.
On est dans la deuxième partie.
Absolument, bien sûr. Mmh. En plein dedans, puisqu'on la pense. Et on universalise, là, pour le coup, l'expérience. Qu'est-ce que la mort ? Bien, c'est la séparation, d'abord séparation au sens matériel, donc désagrégation atomique. C'est la séparation psychophysique, si vous permettez, c'est-à-dire, en un sens presque théologique ou chrétien, c'est-à-dire c'est la discorde de l'âme et du corps, l'arrachement de l'esprit à la matière. Donc, séparation matérielle, séparation de l'esprit et de la matière, séparation morale, puisque la mort nous prive de nos amours, de nos amis, et séparation métaphysique ultime, si j'ose dire, puisque la mort me sépare de moi-même, elle me désincarne. Donc je pense que quand on définit la mort comme séparation, on ne dit pas rien. On s'approche de l'essence de la chose. La mort, c'est la séparatrice. C'est la négation qui travaille tout ce qui est réel.
Donc le paradoxe de cette deuxième partie, c'est que vous élaborez une pensée positive de la mort comme ce qui sépare. C'est-à-dire,
absolument.
C'est donc il y a une pensée possible de ce qui semble dissoudre justement la pensée.
Exactement, mais du seul fait que c'est nommé comme principe de dissolution, ça veut dire que c'est affirmé en tant que quelque chose. C'est bien ce quelque chose, ce négatif. Qui travaille la réalité vivante. Donc c'est la séparation. Le deuxième concept, c'est la fin. Celui-ci est très important, je crois, parce que le concept de fin est magnifique. Il a une ambivalence en français qui est extraordinaire.
Extraordinaire, c'est le but et le terme.
Oui, c'est ça. C'est ce qui achève. Le pain est fini, il n'y a plus de pain. Donc c'est l'absence de la chose, la fin. Et c'est la pleine présence. Le tableau est fini, il est complètement là. La mort, c'est la fin dans ces deux sens. C'est-à-dire que c'est ce qui nous achève, c'est ce qui nous fait disparaître, et en même temps, quel beau paradoxe, c'est ce qui nous authentifie dans notre présence. C'est-à-dire que sans terme, notre vie ne serait peut-être qu'un fantasme, qu'un rêve, elle serait indéterminée. La mort, en tant qu'elle est fin, et qu'elle nous abolit, nous définit, nous détermine. Donc elle nous réalise, littéralement. N'est réel que ce qui est fini, n'est fini que ce qui est, que ce qui est réel.
À l'argument donc, la que mort... vous développez s'ajoute l'idée sartrienne que la mort c'est l'être et non pas le néant. C'est-à-dire que de la même manière, c'est ce qui permet de dire à Sartre qu'on entre dans un mort comme dans un moulin, justement.
Pourquoi pas ?
Quand on meurt, on ne disparaît pas, au contraire. Quand on meurt, on est statufié.
Le paradoxe est effectivement là, c'est que la mort, je le répète, nous authentifie en tant que vivant. C'est l'on peut dire, la preuve de la vie. Donc c'est la fin au sens de la vie humaine. C'est la fin, donc, en ces deux sens-là, qu'elle nous abolit, qu'elle nous fait disparaître et qu'elle nous fait en même temps pleinement apparaître. C'est le dernier coup de pinceau sur la toile, en fait.
Alors, ce que vous dites est tellement intéressant, Pierre Dulot, et tellement bien structuré que le propos, peut-être le sujet s'y prête aussi d'ailleurs, dépasse de très loin l'intérêt objectif qu'on peut avoir ou qu'un bachelier, auditeur, peut avoir pour le baccalauréat lui-même. Néanmoins, il nous reste 10 minutes.
Ça va poser
troisième
problème.
Partie et conclure. Et oui, justement, ça va poser problème. C'est pas ça qui vous effraie. Allons vers la troisième partie, donc, et opérons une transition.
Bah écoutez, la transition, elle se ferait en disant qu'on peut multiplier les déterminations conceptuelles. Il y en a une troisième que j'aurais souhaité développer, c'est celle de l'imminence, c'est-à-dire que la mort, c'est l'horizon même de toute expérience. Bon, mais c'est dans la droite ligne de ce que je disais sur la fin, c'est-à-dire que c'est ce qui achève, c'est ce qui abolit, mais c'est ce qui révèle. Donc c'est ce qui nous devance toujours et déjà, de telle sorte que c'est ce qui définit l'horizon dans lequel nous nous mouvons, dans lequel notre expérience devient possible. Il faudrait dire dans la transition que tout cela est parfaitement vrai,
mais que la séparation, la fin et l'horizon.
Et l'horizon, absolument, que tout cela est parfaitement vrai, mais que ça ne suffit pas, que cela ne nous rend pas pour autant maître de la mort, évidemment, cela va de soi, que cela ne nous permet pas d'objectiver le phénomène et qu'ici, l'effort de détermination spéculatif, l'effort de détermination logique, rencontre tout de même un obstacle qui doit le faire basculer sur un plan moral. C'est-à-dire que ce que je soulignerais dans cette transition, c'est que on ne peut pas penser la mort en s'en acceptant, mais en l'acceptant. Donc je basculerai, si vous voulez, dans la troisième partie, sur un terrain plus moral, de philosophie pratique, si vous voulez, pour défendre la thèse que la pensée se réalise pleinement que quand elle est capable d'accueillir l'expérience et d'y consentir.
Au fond, ça veut dire que ça caducifie, si j'ose dire, tout ce que vous venez de dire, ça rend caduque tout ce que vous venez de dire, dans la mesure où parler de la mort comme fin, comme séparation, comme imminence ou comme horizon, c'est encore mettre la mort à distance de soi et ça peut être lu comme une stratégie d'esquive.
Absolument, on peut l'interpréter comme ça en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'était inutile, parce que peut-être qu'il fallait en passer par là pour prendre conscience de cette chose.
Non, mais ça avait quelque chose de rassurance qui doit toujours nous inquiéter en philosophie.
Vous avez tout à fait raison, c'est trop beau pour être vrai. Et la mort, la grande inconnue, l'inquiétude par excellence, profil bas, comme je le disais au début de l'émission, profil bas. Donc fin, imminence, séparation, bon, tout ça c'est bien joli, mais il y a autre chose qui se joue, quelque chose de plus énigmatique. Et c'est comme ça que je rebondirai dans la troisième partie, en développant l'idée que la mort n'est pas une question, qu'elle n'est pas un problème, mais qu'elle est une énigme. Donc mon premier point, on peut commencer par là, consisterait à distinguer question et énigme. La mort est une énigme plus qu'une question philosophique. La question s'abolit dans la réponse, le problème s'abolit dans la solution, l'énigme demeure, perdure toujours, et elle nous pose moins, l'énigme, je pense, un problème théorique, comme je le disais tout à l'heure, qu'un problème moral.
Pour distinguer, hein, juste quand même, la question de l'énigme, si je vous demande si Dieu existe, je vous pose une question. Si vous me répondez « oui, Dieu existe », par exemple, vous apportez une réponse, mais vous ne répondez pas à l'énigme du fait même de l'existence de Dieu.
C'est exactement ça.
Au fond, tiens, l'existence de Dieu est en elle-même une énigme, même si c'est une réponse à la question que je vous pose.
C'est très clair. C'est-à-dire que la réponse n'abolit jamais la pertinence en fait, de la question ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire toute réponse...
Raison pour laquelle on a toujours raison de s'étonner, d'ailleurs.
C'est ça. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le souffle qui anime la philosophie ne peut pas s'éteindre. Si la philosophie s'occupe ultimement des énigmes, ça veut dire que ce souffle ne peut pas s'éteindre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'énigme, elle nous pose une question de morale et pas une question directement spéculative. L'énigme, on l'endure, on affronte la sphinge, quoi. Ou on l'élucide ou on l'élude. On l'évite ou on l'affronte. Alors que signifie élucider l'énigme de la mort? C'est ce que j'essaierai de développer dans la troisième partie. Eh bien, pas empiler des traités sur l'apoptose ou des considérations théoriques abstraites, mais peut-être faire des expériences d'une autre nature, l'expérience du chef-d'œuvre, de l'œuvre d'art. Peut-être que penser la mort, ça ne devient possible qu'au contact de du chef-d'œuvre artistique. Je ferai un développement là-dessus, si vous voulez. J'avais des références picturales en tête, je pensais aux ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune ou au berger d'Arcadie, évidemment, Nicolas Poussin. Sont des méditations sur la mort. Ce sont des méditations sur la mort, des méditations très profondes et qui nous donnent à penser cette chose, pas impensable, mais toujours insuffisamment pensée, en fait. Hein. C'est ça la troisième partie. Cette chose, non pas impensable, mais toujours insuffisamment pensée, qu'est la mort. Ce sont les vecteurs, je pense, de la méditation. L'œuvre d'art, la prière, bien sûr, la liturgie. Je pense que c'est dans ce type d'expérience que la pensée est peut-être susceptible de s'approprier le phénomène de la mort, non pas pour en faire un objet que l'on manipule à loisir, mais pour finalement ça c'est un paradoxe, c'est une appropriation qui est paradoxale, pour finalement y consentir. Parce que l'enjeu est là.
Alors, il s'agit de voir ici à quel point ce que vous dites n'est pas abstrait. Les ambassadeurs d'Holbein,
oui.
C'est un tableau où il y a ce qu'on appelle une anamorphose.
Oui, c'est ça.
Que si on se met dans un certain angle, deux ambassadeurs en costume d'apparat, ils sont ridicules, enfin ils ont tous les atours de la grandeur. Si on se met sous un certain angle, on voit que l'espèce de trace qu'il y a à leurs pieds est en fait un crâne. Et ce crâne se dirige vers eux, au fond. Prend la direction des ambassadeurs. Comme si c'était la mort elle-même qui dictait toutes les allures, tous les apparats du pouvoir, de la représentation. Comme si, au fond, toutes les pourpres et les hermines qu'on se pose sur les épaules n'étaient là que comme des paravents pour dissimuler l'imminence ou l'imminence de la mort.
Mais ce qui est génial, c'est que c'est au premier plan et que c'est précisément ce qu'on ne voit pas. Ce qu'eux ne voient pas et ce que le spectateur ne voit pas s'il n'est pas averti. Ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs pendant pas mal de temps après que Holbein a peint cette toile. Donc oui, ce tableau constitue en soi une méditation sur la mort qui est remarquable parce qu'il nous dit c'est toujours ce qu'on a devant nous mais qu'on ne peut pas voir. C'est ce qui oblige à un effort de décentrement pour pouvoir être ressaisi. C'est ce qui frappe de nullité, de vanité, de vacuité tous les ors de la terre, toutes les formes de pouvoir, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, etc. Tout ça est traversé par un spectre, un fantôme. Qui met tout le monde d'accord d'une certaine façon. Donc quand je dis l'œuvre d'art nous permet de méditer la mort et de la penser authentiquement, je veux dire qu'elle nous permet d'intérioriser l'énigme. Donc non pas croire qu'on va s'en rendre maître, mais la faire de plus en plus intimement sienne.
C'est le lieu commun qui voudrait que si nous n'étions pas mortels, nous n'aurions pas de génie.
Oui. Il y a encore autre chose là dans ce que vous dites.
Il faut peut-être pas, comme il faut conclure de toute façon, laissons cette piste ouverte à ce moment-là.
D'accord, si vous voulez. Moi, la dernière chose que j'aimerais dire, puisque s'il faut conclure, c'est que en dernier recours, la pensée ne peut pas être qu'une force d'objectivation. Elle n'est pas non plus qu'une force d'universalisation de l'expérience, elle n'est pas non plus qu'une puissance de détermination conceptuelle. La pensée s'accomplit lorsqu'elle est capable de réconcilier ce que l'on croit et ce que l'on sait. Et vous aviez évoqué cette question au commencement de l'entretien, et je crois que c'est très important. Je pense que penser la mort, comment dire ça ? Il y a des choses qu'on sait et auxquelles on n'arrive pas à croire, et la mort fait partie de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a beau en avoir la certitude, tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je vais mourir, ça ne veut pas du tout dire qu'on est capable de l'accepter.
Je voudrais mourir au printemps, quand les fleurs lentement éclosent, quand la terre se métamorphose et que l'air devient plus brûlant. Je voudrais mourir au printemps dans un lit tout couvert de roses, en voyant dehors mille choses que je ne voyais pas avant.
Immense merci Pierre Dulot pour cette démonstration, antidémonstrative en un sens d'ailleurs, puisque vous vous donnez l'objet le plus difficile qui soit. Peut-on penser la mort ? C'était le sujet du jour et c'est à regret, je le dis très franchement, que cette conversation s'achève.
Et le bonheur, dans ma chambre, long rideau blanc, en tenant ta main dans la mienne, je voudrais, sans te faire de peine, je voudrais mourir au printemps. Sur une branche du soleil, sur une fleur, et partout une avalanche de couleurs et de bonheur. Dans ma chambre, long rideau blanc, en en tenant ta main dans la mienne, je voudrais, sans te faire de peine, je voudrais mourir au printemps.
Allez, c'est l'heure sur France Culture de retrouver tout de suite le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett, une Adèle hilar. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Comme toute cette semaine, je vous propose un journal adapté à la grande actualité philosophique du moment, à savoir l'épreuve de philosophie au bac que l'on prépare avec vous toute cette semaine. Et pour finir cette série, j'aimerais vous montrer en quel sens la littérature peut, elle aussi, être utile pour les dissertations de philosophie, à condition de bien savoir s'en servir et de comprendre en quel sens la littérature, elle aussi, donne à penser. Bonjour Martine de Godemar.
Bonjour.
La voix des personnages, c'est le titre de votre essai qu'on trouve aux éditions du Cerf et qui essaye donc de montrer en quel sens les personnages de fiction, c'est-à-dire de littérature mais aussi de cinéma, sont plus que des personnages, sont plus que des portraits que l'on aurait croqués avec quelques traits assez flous ou au contraire unilatéraux, mais qui sont véritablement des formes d'existence, c'est le terme que vous employez, des formes de vie qui nous ouvrent vers un univers de pensée qui dépasse le cadre auquel on les associe généralement, qui est de la pure fiction. Et donc, si on doit le résumer, votre livre, on peut dire qu'une des thèses, c'est de montrer que fiction et philosophie ne s'opposent pas, et au contraire, que dans la fiction, on peut trouver des éléments qui nous donnent à philosopher, Martine de Godemar.
Oui, en fait, je suis revenue un petit peu en amont de cette question de la fiction, dans la mesure où je suis partie d'une expérience que je crois une expérience commune, c'est que nous sommes charmés, fascinés ou impressionnés par des personnages dont certains n'ont pas de nom ni pas de forme, ni forme, ce sont des personnages de rêve ou de rêverie, et d'autres ont pris une forme, quelquefois ont pris un nom, et on les trouve dans des textes, on les trouve dans des tableaux, on les trouve à l'opéra, on les trouve au théâtre, et d'ailleurs ces personnages ont comme propriété de passer d'un genre à un autre, de la littérature au théâtre, des tableaux à l'opéra. Et c'est cette grande mobilité, et en même temps que leur charme et leur efficacité, qui m'a interrogée. Ce qui fait que je me suis demandé quels étaient ces êtres ou ces quasi-êtres qui nous environnent, dont on a l'impression qu'ils sont intimes puisqu'ils sont de nos rêves et qui sont en même temps partagés puisque, en fait, nous les retrouvons lorsque nous parlons avec d'autres. Et c'est pourquoi le cinéma, et ça c'est ce que affirme Stanley Cavell, le cinéma est un lieu particulièrement valorisable de cette expérience, puisque nous sommes seuls au cinéma. Nous vivons d'ailleurs, selon Cavell, une heure et demie de solitude métaphysique. Et en même temps, nous sommes avec d'autres et nous pouvons en parler à la sortie du cinéma. Donc nous avons là une sorte de concrétion de cette expérience de l'intime et du collectif qui sont réunis dans les personnages.
C'est-à-dire qu'au sein d'un personnage, donc d'un film par exemple, ce personnage-là nous donne à voir et nous donne à vivre des expériences que nous ne pouvons faire dans notre propre vie. Et en ce sens-là, elles épaississent et étoffent notre réflexion morale.
Absolument. Ce sont des outils de la conversation et même de la délibération morale et des outils collectifs. Des outils personnels et des outils collectifs. Ce qui fait que les personnages, au sens où je les entends, battent en brèche, au fond, cette opposition de l'individuel et du collectif et nous montrent à quel point nous sommes sans arrêt dans un espace intermédiaire entre le soi et le nous, cet espace intermédiaire que j'appelle avec Winnicott un espace transitionnel, un espace potentiel. Ces personnages, au fond, ils dépassent la particularité vers quelque chose d'universalisable, en tout cas de partageable.
Est-ce que pour autant on peut en faire une norme? On peut dire que ces personnages sont autant de normes?
Alors, je ne dirais pas qu'ils sont des normes, mais ils incarnent certaines normes. Et la délibération ou la discussion nous amène à soit nous approprier ces normes, soit au contraire à les rejeter, à vouloir en inventer d'autres. Et il me semble que les personnages sont ainsi des outils pour l'imagination d'autres formes de vie ou au contraire pour l'appropriation des normes de notre société. Il y a des outils, il y a des personnages qui sont vraiment des outils au fond de conservation et d'autres qui sont des outils de désagrégation sociale ou d'invention sociale.
Voilà, et donc là on va à rebours hein, du lieu commun sur le cinéma ou la littérature ou même la fiction en général qui ne serait que divertissement ou œuvre voilà. de l'esprit. Au contraire, il y a une utilité morale mais quasi politique à ces personnages-là.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, ne les opposons pas. Parce que le fait que nous puissions avoir des divertissements dans un monde que l'on peut considérer comme tragique, c'est aussi une manière d'améliorer la vie. Donc les personnages et les œuvres d'art, ou même le cinéma ou la musique, sont des manières d'améliorer la vie. Donc ce sont des outils d'un perfectionnisme moral et d'une amélioration de la vie collective. Mais effectivement, comme vous dites, ça peut aller plus loin. C'est-à-dire que les personnages peuvent être de véritables outils d'invention sociale et politique.
Et là, vous vous situez du point de vue du spectateur, hein, celui qui observe et qui vit finalement avec un personnage sur l'écran, que ce soit au cinéma, même dans les séries télévisées, ça marche également, hein, puisqu'il y a aujourd'hui des séries de très très bonne qualité, et qui mettent en œuvre justement cette proximité que nous pouvons en tant que spectateurs établir avec le personnage, puisque lorsqu'on regarde une série, on retrouve le personnage chaque jour ou chaque semaine, on établit vraiment un lien de proximité, et donc qui met en jeu ce que vous disiez tout à l'heure, à la fois une intimité et qui nous renvoie au jeu que nous sommes dans un nous, dans un collectif. Et ça, c'est effectivement une problématique proprement cavellienne, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure de Stanley Cavell.
Oui, je me suis beaucoup inspirée des perspective ouverte par Stanley Cavell, d'une part parce qu'il a montré que les personnages, selon le genre littéraire ou cinématographique, n'ont pas exactement la même consistance. Un personnage cinématographique, par exemple, c'est une sorte de concrétion tout à fait étonnante entre un personnage, qu'on pourrait dire fictif, et la réalité d'un corps qui est celui de l'acteur. Et là, une star naît lorsqu'il y a une sorte de rapprochement et qu'on ne peut plus séparer l'un de l'autre. On a là le personnage cinématographique. Et c'est différent pour le personnage de théâtre, puisque le personnage, d'une certaine manière, au théâtre, commande à l'acteur qui s'efface derrière le personnage, qui le laisse l'investir et l'envahir. Et il me semble que les personnages ont des liens entre le corps et l'espace fictif, très différent selon les genres. Dans le roman, c'est certainement différent. Il est beaucoup plus difficile de faire varier un personnage de roman, et son incarnation est moindre. C'est-à-dire que quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a très peu de caractéristiques, de propriétés singulières qui lui sont données, ce qui nous permet aussi de rêver. Donc en fait, les personnages dans divers genres nous offrent des possibilités différentes, nous offrent des ressources, qui sont des ressources de rêve, mais aussi des ressources critiques.
Merci beaucoup Martine de Gonemar. On a parlé de Stanley Cavell, un autre philosophe qui traverse tout votre livre, c'est Leibniz. Alors je laisse les auditeurs découvrir en quel sens Leibniz a son mot à dire dans cette histoire. En tout cas, il était bon de vous entendre aujourd'hui puisque ça permet de rappeler aux étudiants qui passent le bac la semaine prochaine que faire de la philosophie, c'est pas uniquement faire des dissertations, qu'il y a une manière non professionnelle de philosophie, ça c'est Stanley Cavell qui le dit, et votre livre en est la preuve. Donc je rappelle son titre, c'est La Voix des Personnages, et c'est publié par les éditions du CERF. Merci d'être venu en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci Adèle, merci à tous. Ainsi s'achève la deuxième semaine de l'année que les Nouveaux Chemins consacrent au bac philo. Une semaine dont je ne vous dirai jamais assez qu'elle reste disponible, tout comme la précédente, diffusée à Pâques, en ligne, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendez également, outre le téléchargement et l'écoute en ligne de l'émission, une bibliographie au paragraphe près, indispensable, en tout cas nécessaire à un travail de fond, sur les sujets dont nos cinq professeurs de la semaine ont esquissé le plan devant vous, et parfois d'ailleurs devant leurs élèves. J'en profite d'ailleurs pour les remercier à nouveau, Guillaume Durand, du lycée Jean Perrin, Sébastien Gury du lycée Vauban de Luxembourg, Sandrine Guignard du campus Sainte-Thérèse, Franck Lelièvre du lycée Charles de Gaulle à Caen et Pierre Dulot du lycée international de Strasbourg dont vous venez d'entendre la prestation, je dois dire, remarquable. Au-delà de nos cinq invités de la semaine, permettez-moi de remercier tous les professeurs de terminale qui s'attachent à transmettre le désir de l'amour de la sagesse dans des conditions inévitablement difficiles puisque jusqu'à nouvel ordre, la philosophie demeure encore séquestrée en classe de terminale au lieu de s'étendre comme c'est sa vocation aux classes de seconde, de première et même au collège où son enseignement ferait des merveilles. Croisons les doigts pour que, de ce point de vue, les choses changent enfin. Luc Châtel, notre ministre de tutelle, a déclaré en novembre dernier que l'enseignement de la philosophie serait étendu aux classes de seconde et de première, dont acte, l'heure est venue pour notre ministre de tenir sa promesse, nul n'en doute ici. Quant à nous, on se retrouve, si le cœur vous en dit, la semaine prochaine pour un changement de décor, puisque nous parlerons d'un philosophe qui sut mieux que les autres sortir la philosophie de l'école et la rapprocher de la vie, Gilles Deleuze. C'est la semaine prochaine. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.